Mais on va voir, bon, à la fin, comment est-ce qu'on va se diriger. On passera pas nécessairement un vote, là, mais on va voir comment ça va pour la suite des choses. Je vais vous expliquer tantôt. Mais les deux choses qu'on avait vues, en fait, on parlait du retour du Seigneur. Quand est-ce que Jésus va revenir? Quand est-ce que cette chose-là va se passer? Et puis, l'intention que j'avais, c'était de regarder dans les Écritures les réponses que Dieu nous donne. Les réponses que Jésus nous donne, parce qu'évidemment, on ne veut pas se créer des réponses nous-mêmes et puis faire le mauvais coup que plusieurs ont fait, comme on disait dans le passé, que plusieurs ont prétendu connaître quand est-ce que la fin du monde va se produire, quand est-ce que Jésus va revenir, qu'il est déjà revenu. Bref, on va prendre la réponse de ce que Dieu lui-même donne, de ce que Jésus donne, et quand est-ce que Jésus va revenir. Puis la première réponse qu'on avait vue, était « Personne ne sait ni le jour ni l'heure ». On ne reviendra pas nécessairement sur les détails de ça, mais c'était la réponse que Jésus disait. Une deuxième réponse que Jésus a dite, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière ». Alors, Jésus revient, on l'attend, mais d'ici là, en attendant, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Et Jésus avait donné des enseignements, justement, concernant son retour, puis pour éveiller notre intelligence, pour être à l'affût de ce que lui avait annoncé. On va voir, disons, deux autres réponses, puis une troisième qui va nous conduire vers quelque chose de beaucoup plus grand. C'est là qu'on va voir vers où est-ce qu'on va s'en aller par après. Mais j'aimerais qu'on fasse un mot de prière et on va regarder les trois autres, disons, réponses que Jésus va nous donner, ou qu'on peut voir dans les Écritures, du moins, du retour du Seigneur. Alors, prions. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Tu es un grand Dieu, puis tu prends soin de nous. Et on est vraiment reconnaissant, Dieu, de tes Écritures, de ta parole que tu nous laisses. Tu nous parles, Seigneur, à nos têtes, tu parles à nos cœurs, tu veux nous enseigner, tu veux te faire connaître, tu veux nous connaître aussi. Dieu, on veut ouvrir nos pensées, ouvrir nos cœurs pour que tu puisses justement avoir accès à nos vies, puis qu'on puisse transformer nos vies, qu'on puisse vivre présentement en fonction de ce que tu désires pour nous, puis en attente justement de ton avènement. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. La troisième réponse, je ne veux pas vous solliciter, mais en même temps, on est dans un sujet qui est une doctrine en particulier qu'on pourrait dire, ou qu'on a besoin de regarder plusieurs écritures, plusieurs portions d'écriture pour compléter un portrait. Et fait que je vais solliciter vos lectures, si vous voulez bien. Et puis, je vais poser des questions aussi, où ce que vous aurez l'occasion de partager. La troisième réponse qu'on voit ce soir, que le Seigneur lui-même nous donne, ou qu'on voit dans les Écritures, c'est que le Maître tarde à venir. On voit dans les Écritures ce sujet-là en ce qui concerne le retour du Seigneur, d'un thème que le Maître tarde à venir. Alors, il est clair que Dieu seul connaît l'heure exacte, on en avait déjà parlé, du retour de Jésus-Christ. Mais pourtant, les Écritures révèlent à tout lecteur attentif qu'il s'écoulera un temps assez long entre le départ du Sauveur et son avènement. Je pose la question, puis je vais prendre quelques réponses de ce que vous avez, puis on va regarder les Écritures plus précisément. Quels sont les divers faits annoncés aux disciples qui devaient se réaliser avant la venue glorieuse de Christ? Prenons les disciples qui ont entendu les enseignements de Jésus. Allons même un petit peu plus loin. Jésus est remonté. On est dans l'Église primitive. Quels sont les éléments de connaissance que l'on peut avoir qui doit arriver avant le retour du Seigneur? Pas nécessairement tous les signes, mais donnez-moi quelques idées. Simon? OK, la venue de l'Antéchrist. Quoi d'autre? L'apostasie. OK. Quoi d'autre? Oui, René? La bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle devait être répandue. Puis si même on recule dans un temps même encore plus restreint, qu'est-ce qui devait se passer? Là, je ne veux pas être trop subtil dans les réponses que je veux chercher, là, mais dans un temps même plus restreint, des choses qui devaient se passer, tout ce que vous dites est très pertinent à la question. Oui, je dis. Il fallait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Jésus l'avait dit. D'autres idées qui vous viennent en tête? OK, la destruction du temple. On va regarder quelques textes. Tournez avec moi dans Jean 14. On va regarder particulièrement dans les évangiles pour cette section-là. C'est pas, là, ce que je vais faire ressortir de ce point-là, ce n'est pas nécessairement les signes annonciateurs de la venue de Jésus, mais beaucoup plus cette idée-là de « le maître tarde à venir ». Ça veut dire qu'en tant que disciples, les disciples devaient comprendre qu'il devait y avoir un laps de temps avant le retour, puisque Jésus a donné des éléments qui devaient arriver avant son retour. Alors, en tant que disciples, dans le début du siècle, dans le début de l'Église, bien, il devait comprendre qu'il devait y avoir un laps de temps à cause de ce que vous avez dit, la destruction du temple, l'antéchrist, l'apostasie. Mais regardez dans Jean, on va commencer avec Jean 14, 26. On va lire un verset, on va aller dans Jean 15, 26 après. Jean 14, 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. » Allez au chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jésus est en train de parler à ses disciples. Qu'est-ce qu'il annonce? Le Saint-Esprit, le Consolateur. Est-ce qu'il est arrivé à ce moment-là? À quel moment qu'il est arrivé? À la Pentecôte. Alors, il devait y avoir encore un certain temps. Mais c'est sûr que le temps s'en venait court quand même, là, entre cette parole-là puis la Pentecôte, mais il devait quand même y avoir un certain laps de temps, du moins, qu'il devait comprendre. Regardez, on va aller aussi au chapitre 16, on va lire les versets 7 à 13. Est-ce qu'il y a un volontaire qui voudrait lire chapitre 16, 7 à 13? Rachel? OK. On comprend qu'il doit y avoir un temps. On parle du Saint-Esprit. Jésus, il dit, vous êtes avantageux que je m'en aille pour que je vous envoie l'Esprit. Pourquoi? Question rapide. Pourquoi c'est avantageux? Parce qu'il va être en permanence, de façon individuelle, de chaque disciple, de chaque croyant, d'une façon aussi en Église. Alors, Jésus, qui était présent à un endroit à la fois, il a un ministère aussi efficace dans le ciel, mais le ministère de l'Esprit présentement aussi, qui est en dedans de chaque croyant, permet que c'était avantageux que Jésus retourne au ciel et qu'il nous envoie l'Esprit. On comprend aussi à travers ce texte-là que l'Esprit allait avoir un ministère de convaincre le monde de péché, de justice, de jugement. Sans nécessairement prendre beaucoup de temps pour expliquer ces points-là, on voit que l'Esprit est là pour être avec nous, pour rendre témoignage, pour convaincre et nous accompagner aussi dans le témoignage qu'on doit rendre. Évidemment, Jésus est en train de parler à ses disciples. L'Esprit vous rappellera ces choses-là. Alors, on comprend qu'il y a une portion de temps où on doit attendre l'Esprit. Et en plus que l'Esprit, une fois qu'il va être là, il va y avoir un ministère qui doit se passer avant le retour du Seigneur. Les disciples du premier siècle devaient comprendre qu'il allait avoir ce ministère-là qui allait durer pendant un certain temps. Il y a un autre événement. En fait, je vais en voir deux autres, puis après ça, on va regarder dans Matthieu. Allez, tant qu'être dans Jean, allez au chapitre 21. Qu'est-ce qui devait se passer avec Pierre avant le retour du Seigneur? C'est quoi? Qu'est-ce qui devait se passer avec Pierre avant le retour du Seigneur? OK, le renier, oui, évidemment. Et même après la résurrection de Jésus, et puis même après que Jésus soit remonté au ciel, il devait mourir. Pierre devait mourir avant le retour du Seigneur. Ça peut paraître un peu banal, mais c'était quand même un indice qui était donné pour les gens. Mais on va lire le texte. Jean 21, 18 et 19. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, elle lui dit, « Suis-moi. » Il y avait déjà un élément clair que Pierre devait mourir avant le retour du Seigneur. Pierre, je ne sais pas si c'était malheureusement pour lui, mais heureusement pour lui, Jésus lui a dit la parole qu'il avait besoin d'entendre, mais il ne pouvait pas espérer le retour du Seigneur. Il savait qu'il allait mourir, mais il savait qu'il allait rejoindre le Seigneur. Alors, il y avait l'espérance absolue qu'on parlait de la semaine dernière, si ce n'était pas de son retour. Et il y avait, juste pour ouvrir la parenthèse puis le refermer aussitôt, il y avait un peu de confusion, par exemple, en ce qui concerne Jean. Parce que regardez le verset 22. Verset 21. Verset 20. Pierre s'étant retourné vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre? » En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Et Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. » Alors, il y avait peut-être eu une rumeur qui avait tourné dans les disciples. Est-ce que Jésus va revenir avant que Jean meure? Aujourd'hui, on connaît la réponse. Dans ce temps-là, peut-être qu'il y avait un peu de confusion. Mais ce que l'on voit à travers ces points-là, c'est qu'il devait y avoir un temps avant le retour du Seigneur, que les disciples devaient comprendre, les premiers disciples. Et ça, c'est vrai pour nous encore aujourd'hui, qu'on comprend qu'il y avait un temps qui devait être fait. Je vais vous citer Matthieu 24, 14. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors quoi? Alors viendra la fin. » 2 Thessaloniciens 2, 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, on l'avait lu la semaine passée, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Il y avait des signes, vous les avez nommés tantôt, l'apostasie, l'antéchrist qui doit arriver. On sait qu'il doit y avoir un temps avant le retour du Seigneur. On sait qu'il y a des choses qui doivent se produire aussi. Jérusalem, Jésus disait dans Luc 21, 20 à 24, ben, je vous invite à y tourner. Après ça, on va aller dans Matthieu pour conclure cette section-là. Quelqu'un qui veut lire Luc 21, les versets 20 à 24. Claude? OK. Quel autre élément qu'on doit comprendre qui doit arriver avant l'avènement du Seigneur? Le temps des nations. Et quoi d'autre aussi, un autre élément important à travers le temps des nations? Verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que la désolation est proche. Verset 24 aussi. Et tomberont sous le tranchant de l'épée, seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alors, il doit y avoir le temps des nations, il doit y avoir aussi cette destruction-là qui doit être investie par des armées qui devait se passer avant l'avènement du Seigneur. Je vais juste vous citer Romains 11, 25. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Alors, ça conclut un peu même les réponses que vous donniez tantôt. On a parlé du Saint-Esprit qui devait être donné, Jérusalem. On a aussi la totalité des païens qui doit entrer. Dieu connaît les gens qu'il va appeler. Il va attendre que chacun soit arrivé. Et tournez dans Matthieu 24. La réponse qu'on pourrait avoir face au retour du Seigneur, c'est le Maître tarde à venir. Il y a un temps qui passe, il y a un temps qui s'écoule. Et on est combien de temps après le départ de Jésus de la terre? 2000 ans. Est-ce que le Maître tarde à venir? Avez-vous cette impression-là des fois? Oui? C'est quand, Jésus, tu vas revenir? Il doit se passer un temps. Mais les Écritures, on va le deuxième point, la deuxième réponse va apporter un autre élément, une autre perspective. Mais ce qu'on voit quand même dans les Écritures, c'est qu'il y a un temps qui devait se passer. Oui, des éléments, comme vous dites, qu'on doit attendre, des signes qu'on doit voir, qu'on doit attendre pour voir que ces choses-là avancent. Mais on est quand même 2000 ans après. Mais malgré le fait que le temps passe, quelle est notre attitude dans ça? Quelle est notre persévérance à l'intérieur de ce temps qui passe pendant qu'on attend? Quelle est notre persévérance? L'histoire qu'on va lire vient directement toucher cet élément-là, de persévérance en attendant le Maître. Matthieu 24, verset 48. J'ai dit 48, mais on va lire à partir du verset 45. À partir jusqu'au verset... je ne sais pas pourquoi je n'ai pas noté le bon. 45 à 51, s'il vous plaît. Quelqu'un voudrait lire ça? OK, Paul. OK. Il y a un serviteur qui s'en un maître qui s'en va, puis établit un serviteur sur sa maison. Quelles sont les caractéristiques du premier serviteur? Qu'est-ce qu'on voit comme caractéristique chez le premier serviteur? Fidèle et prudent. Quoi d'autre aussi? Il veille. Qu'est-ce qu'on voit aussi comme caractéristique dans cet homme-là? Il sert le maître. Quoi d'autre aussi? Avec quelle attitude il sert le maître? Il prend soin des gens qui lui ont été confiés. Comment ce serviteur-là a été trouvé? Fidèle. C'est vraiment là le point tournant de ce serviteur-là qui était fidèle, prudent, bon. Le maître est parti pendant un temps. Mais quand le maître revient, il trouve le serviteur qu'il a établi en train de faire ce qu'il lui avait demandé, en train de bien faire ce qu'il lui a demandé. Regardez verset 46. « Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » Alors, le bon serviteur est heureux et puis il est béni, si je peux dire, par son maître, parce qu'il a persévéré jusqu'à la fin, jusqu'au retour de son maître. Quelle récompense est-ce qu'il reçoit? Comment? Oui, encore plus de privilèges, plus de responsabilités, mais plus d'honneur qui lui est accordé aussi à travers ce, ce rôle-là qu'il a usé. C'est quoi les caractéristiques du deuxième serviteur? Jésus, s'il nous a raconté cette parabole-là, c'est pour nous parler, pour qu'on puisse comprendre qu'il peut y avoir deux attitudes à travers l'attente du maître. Il y en a un qui était bon, qui était fidèle, qui était prudent, puis qui a persévéré jusqu'au retour du maître. Mais le deuxième, à quoi est-ce qu'il ressemble? Il ressemble à un non-croyant. À comment? Hypocrite. Pourquoi hypocrite? OK. En attendant, Justin, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on connaît des caractéristiques du deuxième serviteur? C'est un méchant. Il bat ses compagnons, j'ai entendu dire. Et c'est quoi le problème? Où c'est fait? Où il y a eu un switch dans son cœur? où ça l'a changé dans son cœur? Le maître tarde à venir. Ça prend du temps avant qu'il revienne. Le temps passe. Puis regarde, laissons donc faire d'abord. OK. Alors, il n'a pas suivi comme si son maître était là. Il l'a fait comme ce que lui-même désirait. Et puis, finalement, le maître est revenu. J'ai manqué un commentaire. Je ne sais pas d'où ça vient. OK. Ouais. 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 Il y a peut-être. C'est ça. C'est peut-être même jusqu'à. Peut-être qu'il s'est dit jusqu'à un certain point, mon maître tarde à venir. Est-ce qu'il va vraiment revenir? Est-ce qu'il finalement il a oublié le chemin de la maison? Est-ce que, bien, dans ce cas-là, on va profiter de tout ce qu'il m'a laissé? Et verset 48. Mais si un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, alors qu'est-ce qu'il fait? Il se met à battre ses compagnons. Il mange. Il boit avec les ivrognes, et puis le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites, que tu disais tantôt, Justin. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cet homme-là n'a pas montré un attachement au maître, n'a pas montré une allégeance au maître, il a plutôt profité des biens du maître, et puis dire, ben il tarde, puis finalement, je vais faire ce que je veux. Et puis, mais le maître n'a pas oublié de revenir. Jésus n'a pas oublié de revenir. Si on peut croire que pendant un temps, il s'est passé beaucoup de temps avant que Jésus revienne, bien, on doit continuer de persévérer. Qu'est-ce que Jésus nous a laissé comme responsabilité? Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? Puis faisons-le comme ça aussi. Jésus disait dans une autre parabole, quand il va revenir, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Quelle sera notre attitude? Quelle sera notre marche sur la terre en attendant justement le retour du maître? Et puis, je fais juste vous citer parce que le temps passe vite. Matthieu 25, vous souvenez-vous de la parabole de l'époux? Qu'est-ce qui se passe avec l'époux? Il y a 10 vierges qui attendent. Il y en a 5 qui ont de l'huile pour deux. Puis il y en a 5 qui ont de l'huile pour la moitié d'une. Et puis il y a les folles, il y a les sages. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'époux? Il finit par arriver, absolument. Il arrive tard. Le texte est clair. Il arrive tard dans la nuit. Une autre parabole qui sous-entend que ça prend du temps, mais il va arriver. Mais il va arriver. Quelle attitude est-ce que l'on a dans cette attente-là pendant qu'il arrive? Vous souvenez-vous, le maître qui donne des talents à des serviteurs, puis il revient, quand il revient, il demande des comptes. Mais quand il revient, c'est le verset 19 dit « longtemps après, il est revenu ». Alors, il y a un certain dénominateur commun en ce qui concerne les paraboles de Jésus sur le retour d'une période de temps quand même assez longue. Le maître tarde à venir, l'époux est arrivé tard dans la nuit, longtemps après. Ça pourrait être notre perspective. Mais dans cette perspective-là qu'on peut avoir du retour du Seigneur, qu'on a l'impression que c'est tardif, mais quelle attitude est-ce que l'on a? Ça devrait être la persévérance qu'est-ce que Dieu nous a investi comme responsabilité, mais qu'on le fasse aussi. Qu'on soit vigilant comme ces veuves, les femmes qui voulaient marier l'époux, là, qui avaient de l'huile pour attendre, pour veiller. Pourquoi est-ce que Dieu attend si longtemps? Pourquoi est-ce que Dieu attend si longtemps? Comment? Il use de patience. Il use de patience, pourquoi? Pour que tous parviennent à la repentance. Pourquoi, dans notre perspective humaine, c'est si long? Parce que Dieu use de patience. Et ce qu'on est en train de citer, c'est 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, 15. Croyez que la patience de notre Seigneur soit votre salut. La patience que Dieu a présentement pour être perçue de notre part, il me semble que c'est tardif. Il me semble que c'est long. Mais dans le fond, la patience que Dieu a envers l'humanité, c'est pour que les gens viennent vers lui, que les gens se tournent vers lui. Est-ce que le maître tarde à venir si c'est là notre perception humaine, mais qu'on persévère, qu'on continue d'avancer? Je vous donne une quatrième réponse que l'on a dans les Écritures en ce qui concerne le retour du Seigneur. Voici, je viens bientôt. C'est une autre réalité des Écritures. Voici, je viens bientôt. Est-ce que les deux dernières réponses qu'on vient de voir, il semble y avoir un long laps de temps, puis de l'autre côté, on a une autre réponse, « Voici, je viens bientôt ». Est-ce qu'il y a une contradiction? Qu'est-ce que vous répondez à ça? OK. Le temps pour Dieu est différent que pour nous. Oui, Simon. Ouais. Est-ce que vous y croyez que Jésus revient bientôt? Ça fait 2000 ans, là, vous y croyez? Ouais, c'est vrai, absolument. Christina, t'avais levé ta main? Ouais. Ouais. Alors, à chaque fois qu'on dit Jésus revient bientôt, c'est de plus en plus vrai. C'est de plus en plus proche de réellement du retour du Seigneur. J'aimerais qu'on lise, je vous cite Sophonie, je ne vous ferai pas tourner là. Sophonie 1,14. En attendant, je vous invite à tourner dans Jacques. Sophonie 1,14, le grand jour de l'Éternel est proche. Hein, on est au temps de Sophonie, là. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Évidemment, le jour de l'Éternel, il y a l'élément de jugement à travers ça aussi qu'on a dans l'Ancien Testament. Mais l'avènement du Seigneur, le retour du Seigneur est proche, il s'en vient. Et c'est une autre vérité des Écritures. On va voir tantôt des éléments de réponse, mais certainement que ce que vous dites, pourquoi est-ce qu'on a la perspective que le Maître tarde à venir, puis de l'autre côté, les Écritures nous disent « Jésus revient bientôt ». Bien, les Écritures ne se contredisent pas. Mais on va voir un peu pourquoi tantôt. Jacques 5, 7, et 9, 7 à 9. Quelqu'un voudrait lire Jacques 5, 7 à 9? Claude? Le juge se tient à la porte. Verset 7, on voyait, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Quelle attitude est-ce qu'on doit avoir? Mais un peu comme un laboureur qui attend, et puis qui anticipe, puis qui a hâte, et puis ça s'en vient bientôt. Là. Il sait que là, la pluie est donnée, la semence elle est mise, puis là, ben, on attend, puis ça s'en vient, puis on a hâte. Et vous aussi, soyez patients, fermez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est quoi? Il est proche, ça s'en vient. Tournez dans l'Apocalypse. On va lire Apocalypse 1, puis après ça, on va aller au chapitre 22. Juste pour voir quelques éléments, justement, dans cette révélation-là que Jean a reçue de Jésus-Christ. Chapitre 1, verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. » Le temps est proche. Regardez chapitre 22, un petit peu plus loin, verset 10. Et il me dit, « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Au verset 12, encore une fois, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Jésus revient bientôt. Verset 20, un petit peu plus loin, « Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Avec tous. » Qu'est-ce qui fait que, en l'an 95, Jean pouvait écrire cette révélation-là de Jésus qui dit « Oui, je viens bientôt. » Pourquoi est-ce qu'il pouvait dire ça à ce moment-là? Comprenez-vous la question? Pourquoi 2000 ans passés, on pouvait dire « Jésus disait « Oui, je viens bientôt. » Qu'est-ce qu'il veut nous communiquer? Ouais. OK. OK, quoi d'autre? Alors, évidemment, ça va chercher notre attitude face au retour du Seigneur, certainement. Quoi d'autre? Comment? Pour nous autres, c'est bientôt. Comparativement à Jean, tu vas dire, mettons? C'était bientôt lui aussi. C'était-tu vrai pour lui comme pour nous? Oui, Danny. Oui. Oui. 13, 11 et 12 dans Romain. J'avais une autre main aussi. C'était-tu René? Ouais. 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 On doit voir dans cette attitude-là que c'est bientôt, c'est imminent. C'est ça? Oui, Gaétan. Ah, c'est ça. Fait qu'on sait, ce que tu veux sous-entendre, c'est qu'on sait que c'est encore plus bientôt. Ouais. Ouais. Ça peut être fait rapidement, c'est ça. Certainement que plus le temps avance, plus c'est vrai. Mais une chose qu'on doit comprendre, c'est que les Écritures n'ont jamais menti, quelle que soit l'époque que les disciples ont lu cette vérité-là. Oui, je viens bientôt. La perspective de Dieu sur le temps, elle est différente de notre perspective. Tantôt, on pouvait avoir la perspective humaine de « le maître tarde à venir ». Il me semble que ça prend du temps. Mais prenons pendant un temps les lunettes que Dieu a sur le temps. Et la perspective de Dieu sur le temps, c'est « je viens bientôt ». C'est imminent. On va lire des textes bientôt, vous allez voir. Mais actuellement, on est sur la fin de la fin. Je ne vais pas tout brûler de suite, là, mais je veux juste vous lire encore 2 Pierre qu'on a lu tantôt. « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, comme on l'a lu tantôt. Alors, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Ça veut dire quoi? Dieu est au-dessus du temps. Qu'est-ce que c'est pour Dieu, 1000 ans? C'est un jour. » Et pour Dieu, attendre 3 jours, qu'est-ce que c'est? C'est très bientôt. C'est très bientôt. Est-ce que c'est 3000 ans? Pour nous, on ne sait pas, on ne connaît pas l'heure ni le jour. Sauf qu'on a cette vérité-là des Écritures. Dieu nous dit, je viens bientôt. Et comprenons ça comme étant quelque chose d'imminent, que ça s'en vient. Le délai qui pour nous paraît long est pour Dieu tout à fait bref. C'est pourquoi la Bible, parlant à notre point de vue, peut dire « le maître tarde à venir », mais lorsqu'elle emploie le langage de Dieu ou la perspective de Dieu, elle dit « voici, il vient bientôt ». C'est d'ailleurs dans cette deuxième réponse-là que les Écritures on a plus de réponses abondantes, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'éléments de voir sur le retour du Seigneur que c'est proche, que ça s'en vient, que le côté plutôt, la perspective humaine, que ça va être long, il faut attendre. Mais on a quand même la perspective de persévérance malgré l'attente. Tournez dans 1 Pierre 1, juste pour renchérir quelques exemples sur cette idée-là de la perspective de Dieu sur le temps. Dieu n'est pas figé dans le temps, il n'est pas pris dans le temps, et il peut nous parler de sa perspective qui est au-dessus du temps. 1 Pierre 1, 18 à 21, un volontaire, et puis peut-être un autre volontaire qui peut tourner tout de suite dans 2 Timothée 1, 8 à 10. Un volontaire pour 2 Timothée, Richard, 2 Timothée 1, 8 à 10. Et puis un autre volontaire qui voudrait lire 1 Pierre 1, 18 à 21, s'il vous plaît. René. OK. On va lire, avant d'aller tout de suite dans 2 Timothée, à quel moment est-ce que le plan de Dieu s'est dessiné avec Christ? À quel moment je l'ai entendu? Avant la fondation du monde. Déjà, Dieu était au-dessus du temps. Avant regardez verset 19, « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. » Et à quel moment est-ce que ça a été manifesté? À la fin des temps. C'était quand ça, la fin des temps? À la venue de Jésus, c'était le début de la fin des temps. Et alors, Jésus qui a été prédestiné avant la fondation du monde, il est venu pour la fin des temps, il y a 2000 ans passés. Et on est encore dans la fin des temps, et plus le temps passe, plus on est à la fin de la fin. 2 Timothée, s'il te plaît, 1, 8 à 10. OK. Merci, Richard. Au verset 9, on voit qu'il nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Quand? Avant les temps éternels. Dieu est au-dessus du temps. La perspective de Dieu, c'est que les choses se sont passées au-dessus de notre temps et le plan de Dieu s'accomplit pour nous aujourd'hui. Mais quand que Dieu dit que son avènement est proche, que Jésus dit « je viens bientôt », c'est absolument vrai et c'est ce qu'on doit chérir. C'est pourquoi que Jean, dans 1 Jean 2, 18, il peut dire, je vais vous citer, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Nous sommes dans la dernière heure et dans les derniers temps. » Alors, nous sommes à la fin de la fin. Puis il est clair que les quelques milliers d'années de l'histoire humaine sont bien brefs à ses yeux, aux yeux de Dieu. Et puis nous devons avoir la perspective de Dieu que son triomphe arrive avec la fin de nos quelques siècles. Je pose une question. En quoi est-ce encourageant que de chérir un retour imminent? En quoi est-ce que c'est encourageant que de dire « Jésus revient bientôt » En quoi est-ce que ça nous encourage? Ça nous encourage à persévérer. Quoi d'autre aussi? Ça nous encourage à témoigner, absolument. Parce que le temps est court. Quoi d'autre? En quoi est-ce que ça nous... Est-ce que ça peut vous nous faire peur? Est-ce que ça peut nous faire peur que Jésus revienne bientôt? Ouais. Alors, si on est un croyant qui chérit ces vérités-là, puis cette espérance-là que l'on a avec Dieu, ben on a certainement hâte, à moins qu'on ait de quoi se reprocher. Et Paul, il dit ça à Timothée. Je le lis. 1 Timothée 6, 13 à 15. Je fais juste vous citer une phrase. « Je te recommande de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ça devrait être notre motivation s'il revient bientôt, qu'on soit sans reproche. En quoi est-ce que c'est encourageant que de chérir un retour imminent? En quoi est-ce que ça nous encourage que Jésus revienne bientôt? On va être avec lui. Imaginons qu'on est des disciples qui vivons la persécution, les tribulations de notre témoignage, de nos paroles. Auriez-vous hâte au retour du Seigneur? L'accomplissement final du salut? L'accomplissement final sur le péché qui nous fait la guerre encore, que ça va être fini, on va voir son retour, on va avoir la perspective de voir bientôt revenir, de le voir bientôt revenir, ça va être la plus grande consolation de nos épreuves, puis le meilleur stimulant pour notre foi aussi peut-être. D'ailleurs, on croit que ce bientôt est peut-être aujourd'hui, plus que jamais, puis que ça peut se réaliser n'importe quand. Les deux dernières, on termine ce soir avec ça. Ce qu'on a vu avec ces deux dernières réponses qu'on voit dans les Écritures, c'est la perspective humaine qu'on peut avoir de « le maître tarde, ça peut prendre du temps, mais persévérons ». Mais de l'autre côté, on a la vérité dans les Écritures que Jésus nous dit « je viens bientôt ». Son retour est proche, ça s'en vient et on doit s'en souvenir. Je vais juste vous citer en terminant le dernier point, Marc 13, 23. « Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Vous souvenez-vous, on avait lu dans Matthieu 24, c'était quoi l'attitude des gens au temps de Noé? Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils faisaient n'importe quoi, puis Dieu n'était plus du tout dans l'équation de leur vie. Ils ne s'en souciaient pas. Puis Jésus leur dit, bien, de la même façon que le déluge les a surpris, mais le retour de l'avènement du Fils va se produire de la même façon aussi. Il va surprendre les gens. Mais comment est-ce que nous, on va être dans cette attitude-là? On ne sera pas surpris. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Qui sont ceux ici qui ont déjà vu des éclairs dans le ciel? Hein? On en a tous vu. Dans quel contexte est-ce que vous avez vu des éclairs dans le ciel? Dans un orage. Si vous avez un beau ciel clair, soleil, zéro nuage, puis un éclair, moi, j'en ai jamais vu, en tout cas. Généralement, il y a des éléments qui se passent dans le ciel pour que l'éclair, pour que l'orage tombe, pour que le tonnerre puis l'éclair descende. Les Écritures nous montrent que on peut pas trouver l'heure ni le jour, mais Dieu, Jésus, nous a laissé des éléments pour voir, pour être capable, à cette image-là, de regarder le ciel, de voir les nuages se former, de voir que l'orage est proche puis que l'éclair va bientôt tomber. Si on scrute l'horizon, on peut voir justement ces signes annonciateurs-là. Est-ce qu'il y a des signes? C'est ça vers quoi je disais tantôt, on laisse peut-être la porte ouverte, peut-être qu'on continuera, mais quels sont les signes que Dieu nous a laissés, qui doivent se produire avant son retour, qui nous concernent encore plus, nous, aujourd'hui, si je peux dire? Juste terminer en résumant les cinq réponses. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Alors, veillons. C'était l'enseignement que Jésus nous donnait. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Alors quoi? Lisons. Apprenons les Écritures. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Le Maître tarde à venir, alors persévérons, prions, témoignons. Voici, je viens bientôt. Alors quoi? Attendons, soyons prêts, veillons, prions, c'est tout très bon. Mais voici, je viens bientôt. Alors, ben, soyons prêts, là. Soyons prêts si c'est là. Purifions-nous. Il y a plusieurs ions qu'on peut mettre là-dedans, là. Mais si c'est imminent, ben, bougeons. Et soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Alors, observons l'horizon. Scrutons l'horizon de ce que Dieu nous a donné. Sans chercher à extrapoler les signes que Jésus nous a donnés. Je suis un peu frileux sur ces choses-là, les extrapolations des signes, puis de commencer à voir dans des affaires qu'on voit dans l'actualité, de dire « Ah, ça, c'est peut-être la bête » ou quoi que ce soit. Là. Je ne sais pas si c'est vrai. Bon, en tout cas, bref, je peux parler pour moi. Ce n'est pas ma tendance et je ne pense pas qu'on doit absolument mettre un nom sur tout ce qu'on a comme signe que l'on a dans les Écritures. Mais on peut regarder le ciel, par exemple. Puis on peut voir la saison. On peut voir qu'est-ce qui s'en vient. Puis on peut comprendre que l'éclair va bientôt descendre. Et ça, c'est l'avènement du Seigneur. Alors, je termine en priant. Seigneur, on vient devant toi encore pour te louer. Merci pour ces réponses que tu nous donnes dans ta parole. Certainement qu'on a hâte à ton avènement, on a hâte à ton retour. Et Seigneur, notre désir, c'est de le vivre vivant. On voudrait te voir, Seigneur, venir chercher ton Église et puis être enlevé sur les nuées et puis de participer, Seigneur, vivant à cet événement-là qui va se produire. Mais en même temps, on a cette espérance-là absolue que quoi qu'il se passe, même si je meurs, Dieu, je vais te rejoindre et puis certainement que j'aurai cette vie-là encore éternelle, comme Jésus, comme tu le disais. Même quelqu'un qui croit en toi vivra même s'il meurt. Et ça, c'est mon espérance, c'est notre espérance. Puis on a hâte à ton retour, Dieu. C'est au nom de ton Fils qu'on te prie. Amen.